Est-ce qu'on peut allumer l'écran? Voilà. Alors, bonjour et bon matin à vous tous. Bon dimanche. Ça va bien? Oui, moi aussi ça va bien, par la grâce de Dieu. Et j'aimerais prendre juste quelques instants pour vous remercier pour vos prières à mon égard. Vous ne pouvez pas imaginer combien ça fait chaud au cœur quand quelqu'un me rencontre et dit: Hey, je prie pour toi, je prie pour toi. Et puis je vous disais que malgré les circonstances, je me sens soutenu dans cette épreuve et on voit la puissance de la prière. Alors, encore une fois, un grand merci pour votre amour et aussi pour vos prières. Alors, ce matin, comme vous pouvez voir à l'écran, nous allons commencer une mini-série. Pourquoi mini-série? Parce que c'est seulement deux messages. Dans ce que j'ai intitulé Église, voici ton Dieu. Et ce matin, nous allons regarder le premier message dans cette série. Et Dieu voulant, si nous sommes toujours ici, dimanche prochain, parce que, comme vous savez, quand nous prenons les éléments, c'est jusqu'à ce qu'ils viennent. Alors, qui sait quand c'est simplement le pain qui sait cela, mais. C'est notre espérance qu'un jour il va venir et on n'aura pas besoin des aliments, ça va être remplacé par la vue. On va voir le Seigneur face à face. Alors, avant de lire notre texte, je vais vous demander tout d'abord de tourner dans Exode chapitre 13. Ça, c'est notre texte pour ce matin. Et nous allons commencer au verset 17. Exode chapitre 13 au verset 17. Pendant que vous êtes en train de chercher ce texte, vous pouvez vous mettre dans le contexte. Ce contexte, c'est à propos des enfants d'Israël. C'est un grand moment dans leur vie, dans leur histoire. Après avoir passé à peu près 400 ans en Égypte, maintenant, ils avaient été délivrés par Dieu. Dieu avait justement déployé sa puissance pour les délivrer. Et maintenant, ils sont sur un nouveau départ. Et ça, c'est le contexte, justement, de notre texte d'Exode, chapitre 13, au verset 17. Alors, nous lisons ceci. « Lorsque Pharaon, ça c'est le roi d'Égypte, laissa aller le peuple. » Et vous vous rappelez, comme Moïse, quand il allait voir Pharaon, c'était toujours « Ainsi, par l'Éternel, laisse aller mon peuple. » Et Pharaon a eu un combat avec Dieu, mais on sait que quand on essaye de se battre avec Dieu, on est toujours perdant. Alors il a perdu. Et finalement, Israël est parti de l'Égypte. Alors, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit... Le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte, ou comme d'autres traductions vont dire, ils ont sorti aux marchands de façon ordonnée. Hors d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. » Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étan à l'extrémité du désert. Et l'Éternel allait devant eux. Le jour, dans une colonne de nuée pour les guider, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Et voilà. Notre texte, et sans doute si vous avez remarqué en lisant ce texte, Nous avons, au verset 17, parlé de Dieu qui conduisait le peuple. Dieu qui a fait faire un détour au peuple. Alors, dans ce contexte, nous avons Dieu qui est en train de conduire, de guider son peuple. Et voici pourquoi j'ai intitulé le titre de ce message, ce premier message dans cette série. Jéhovah Raha, qui veut dire simplement l'Éternel, notre berger. Et ça tombe bien parce que nous sommes le 23 aujourd'hui, 23 juillet. Et vous savez, le psaume 23, ceux qui ont l'habitude de lire 5 psaumes par jour et un proverbe, vous allez lire ce matin sans doute le psaume 23. L'Éternel est mon berger, dit David, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Alors voilà notre Dieu, Jéhovah, qui a conduit le peuple d'Israël et qui aussi est notre guide, celui qui nous conduit. Alors, en guise d'introduction, j'aimerais parler un peu de Israël, ce peuple. Comme je vous ai dit, c'est un départ pour Israël. Ils venaient d'être délivrés et délivrés d'une vie d'esclavage et de dure servitude. Ils étaient en Égypte 400 ans. On sait que si vous êtes familier avec l'histoire, comment le roi Pharaon justement leur a rendu la vie difficile et cette servitude les a arrachés justement des gémissements. Ça, c'est donc au début de l'Exode. Et Dieu a dit justement à Moïse, j'ai entendu justement les gémissements de mon peuple. J'ai vu leur souffrance et je suis descendu pour les délivrer. Et il va dire à Moïse, maintenant va, c'est toi que j'ai choisi, tu iras maintenant et tu vas faire sortir mon peuple d'Égypte. Et voilà maintenant le grand jour, c'est arrivé. Un peuple délivré de l'esclavage, justement, de ce roi Pharaon. Et comme j'ai dit, c'est un nouveau départ. Et ils sont en voyage. Ils s'en vont quelque part. Et vous savez, c'est où? C'est le pays de Canaan. Ce beau pays, un pays où court, comme la parole de Dieu nous dit, le lait et le miel. Et Dieu avait un plan pour ce peuple-là. C'était justement de aller à Canaan, rendu là-bas, il y aurait des combats. C'est sûr que oui, Dieu donnait le pays au peuple, mais il fallait aussi que leur part, c'était de combattre. Et Dieu avait promis justement de chasser les nations devant eux. Et aussi, suite à cela, Dieu avait dit, je vais vous bénir de façon extraordinaire. Et là, j'ai mis ici quelques bénédictions. Le plan de Dieu pour Israël, c'était justement après avoir marché jusqu'à Canaan, après avoir justement chassé les nations qui étaient là, Dieu a dit à Israël, tu seras béni plus que tous les peuples. Ça, c'était son plan pour Israël. L'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, etc., etc., pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Et il a dit à Israël, l'Éternel fera de toi justement la tête de toutes les nations et non la queue. Et voilà, c'était, comme j'ai dit, le plan d'Israël pour Dieu, pour Israël. Et pourquoi est-ce que Dieu faisait cela? Parce que Dieu voulait justement que Israël soit une lumière pour les nations environnantes. Si vous rappelez encore l'histoire des peuples qui étaient en Égypte, des peuples qui étaient en Canaan, c'était des idolâtres. C'était un peuple qui vivait dans les ténèbres. C'était des peuples qui faisaient des choses abominables. Et là, Dieu avait choisi Abraham, ensuite ses descendants, Isaac, Jacob, et maintenant le peuple d'Israël pour dire, vous allez être des lumières aux nations. Il avait dit à Abraham, je te bénirai et toutes les nations de la terre seront bénies en toi, en parlant justement de cette descendance qui allait venir à travers Israël, finalement Jésus-Christ qui allait venir être une bénédiction ultime de Dieu. Et Dieu voulait cela pour Israël, justement pour bénir Israël, pour que Israël puisse être aussi une source de bénédiction pour les autres nations, être une lumière dans un monde de ténèbres. Et en faisant cela, Dieu sera glorifié, Israël serait béni, et les nations auraient pu regarder, voir qu'est-ce que Dieu était capable de faire à une nation qui est soumise justement à Dieu et qui obéit justement à ses commandements. Tout ce qu'il fallait faire pour y arriver, pour récolter tout cela, c'était d'aller de Égypte jusqu'à Canaan et une fois rendu là, de combattre pour justement acquérir le pays et tout cela en faisant confiance à Dieu. En faisant confiance à Dieu pour le chemin de se rendre d'Égypte en Canaan et faisant confiance au Dieu aussi pour quand une fois rendu dans le pays pour justement la conquête du pays. Et vous savez, nous avons un parallèle ici avec Israël et aussi les chrétiens. Comme Israël, nous étions avant notre conversion esclaves. Esclaves à un dur maître, le péché. Nous étions dominés justement par le péché. Le péché rendait notre vie dure, de toutes sortes de manières. Et à un moment donné, Dieu est intervenu et il nous a délivrés justement de l'esclavage du péché. Et comme Israël, pour eux, c'était l'agneau pascal qu'ils ont tué, et l'Éternel est passé justement dans le pays, et a frappé des premiers-nés en Égypte, et Israël avait mis le sang sur les linteaux des portes, et ils ont été épargnés. La même chose pour nous. Nous avons été aussi épargnés à cause du fait que Jésus-Christ a versé son sang sur la croix pour nous. Et quand nous avons cru, nous avons été délivrés justement du pénalité du péché, et Dieu est en train aussi de nous délivrer de la puissance du péché. Nous sommes aussi, comme Israël, en train de marcher, nous avons une destination. Israël s'en allait vers la terre promise, nous allons vers la maturité spirituelle. Et il faut faire une distinction ici, parce que nous sommes en route pour le ciel, mais le ciel n'est pas la terre promise. Parce que Israël, quand il arrive en Canaan, il faut qu'il combatte. Il y a la guerre. Il n'y a pas de guerre quand on va aller au ciel. Mais nous sommes en chemin vers ce que j'appelle une maturité spirituelle. Ça, c'est notre destination. Nous sommes des voyageurs et des pèlerins sur la terre vers une maturité spirituelle. 1 Pierre 2,11 nous dit cela. Et le plan de Dieu pour nous, juste comme le plan de Dieu pour Israël, c'est à peu près la même chose. Dieu a un plan pour nous dans ce voyage que nous sommes en train de faire, le parallèle avec Israël, c'est la ressemblance à Jésus-Christ. Avoir la victoire sur le péché, parce qu'Israël allait aussi aller en Canaan, puis aller battre, puis avoir des victoires justement sur les nations qui habitaient Canaan, il allait les chasser. Et aussi, Dieu a promis pour nous des bénédictions. Et comme il a dit à Israël dans ce pays, alors l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans le pays, tu mangeras du pain avec abondance, tu ne manqueras de rien. L'Éternel va te faire de toi la tête et non la queue, et ainsi de suite. Alors, le parallèle est aussi là. Dieu, dans ce voyage que nous sommes en train de prendre, Dieu aussi a fait des promesses à notre égard. Et l'apôtre Paul, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, va nous raconter un peu, montrer ce parallèle avec justement les Israélites. Il a dit ceci, le plan pour Dieu, pour l'Église, c'est que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez, maintenant croyez, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, et Il a aussi prié que les croyants, son désir pour eux, le désir pour Dieu pour eux, c'est d'être puissamment fortifiés par son esprit, de comprendre et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance et d'être remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et voilà, notre destination, Israël s'en allait vers justement le pays de Canaan. Nous, Dieu a pour nous une croissance, une maturité spirituelle. Et dans cette maturité, ressembler à Jésus-Christ, avoir la victoire sur le péché, avoir aussi des bénédictions que Dieu veut nous donner ici, comme nous venons de lire, et comme Israël aussi, d'être une lumière pour les nations environnantes. Le parallèle est là. Et qu'est-ce que nous avons à faire justement pour entrer justement dans ces bénédictions? Faire confiance à Dieu et aussi remporter des combats. Faire confiance à Dieu pour le chemin et aussi remporter les combats pour que les gens qui nous entourent puissent nous regarder et voir que nous sommes vraiment des gens qui ont été délivrés de la puissance du péché et que nous sommes en train maintenant de marcher d'une manière qui honore notre Dieu. Et comme Israël aussi était pour être une lumière pour les nations, pour que les gens puissent regarder et voir qu'est-ce que Dieu est capable de faire avec une nation qui se confie en lui. Le plan de Dieu, le parallèle est là pour nous en tant que chrétiens. Notre vie devrait justement refléter ce que Dieu est en train de faire pour nous, pour que les gens puissent nous regarder et qu'ils soient attirés vers le Seigneur Jésus-Christ. Alors, quel est notre rôle dedans, comme Israël, faire confiance au Seigneur pour le chemin, parce que Dieu les avait sortis de l'Égypte pour les amener dans un bon pays. Alors nous aussi, Dieu nous a sortis des ténèbres pour nous amener dans son admirable lumière. Il ne nous a pas amenés au ciel, mais nous progressons dans la sanctification. Et le rôle maintenant à nous, c'est de suivre le Seigneur et faisons confiance au Seigneur pour le chemin et aussi en même temps de remporter les combats sur le péché, avoir la victoire sur le péché pour que les gens puissent nous regarder et d'être aussi attirés vers le Seigneur par notre témoignage. Mais vous savez, il y a une problématique. Ça, c'est le beau plan de Dieu, justement, pour son peuple. Mais il y a une problématique. Et la problématique, ça commence au jardin d'Éden. De faire confiance au Seigneur. On pense à Adam quand il a péché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé se cacher. Caché parmi les arbres dans le jardin. Et la méfiance envers Dieu a commencé là. Et depuis ce jour-là, vous et moi, nous avons, comme Israël, vous allez voir le parallèle est là, nous avons beaucoup de difficultés à faire confiance en Dieu pour le chemin et aussi pour les victoires. Et vous allez lire le livre d'Exode. Et combien de fois, c'est comme un 10, des fois vous avez un 10, là, ça c'est des 33 tours avant là, et un tiers. Et des fois il y avait comme une égratignure là-dessus. Là. Et au lieu de tourner et continuer, c'était répété toujours la même chose. Et si vous lisez le livre d'Exode et de Nombre, vous allez voir la même chose, c'est la même chose, c'est la même chose. Combien de fois Israël, on les voit, ils ont chiolé. Puis pourquoi nous a fait sortir l'Égypte? Pourquoi? C'était incroyable. Jusqu'à quel point que Moïse a dit, Seigneur, tue-moi là. Je suis plus capable, OK, avec ce peuple-là. Mais c'est la même chose. Nous avons cette problématique de méfiance innée, héritée de Adam et Ève. Parce que quand ils ont péché, c'est quoi la première chose qu'ils ont faite? Ils sont allés se cacher loin de la face de l'Éternel Dieu. Parmi les arbres du jardin. Pourquoi? Parce qu'ils étaient méfiants. Et on voit Dieu dans sa grâce qui est venu justement pour régler leur problématique. Il n'y avait pas besoin de se cacher, il y avait besoin justement d'exposer à la vérité de Dieu, à sa lumière, et d'être pardonné, d'être restauré. Mais l'homme, dans son fort intérieur, il est méfiant. Et la même chose aussi pour Israël, on voit comment est-ce qu'Israël était méfiant. Combien de fois ils ont dit à Moïse, « Pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte pour qu'on meure ici dans le désert ?» Ça, ce n'était pas le plan de Dieu pour eux. Et le plan de Dieu pour eux, c'est oui, qu'ils soient des vainqueurs et qu'ils aillent dans ce pays, un bon pays que Dieu les avait promis et que Dieu était prêt à leur donner ce pays, un pays, il y avait des cours d'eau, il y avait des lacs. Est-ce que Dieu le décrit comme où coule le lait et le miel? Et à cause de leur incrédulité, seulement deux de cette génération qui est sortie est rentrée dans le pays d'Égypte, de Canaan plutôt. C'était Josué et Caleb. Alors, un échec total pour Israël. Alors, la question que je vous pose ce matin, et je me pose ce matin, parce que nous sommes, comme je dis, le parallèle est là, comment est-ce que nous allons éviter de finir comme Israël? Comment est-ce que nous allons éviter de saboter le plan de Dieu pour nous? Le plan de Dieu, c'est que vous et moi, que nous soyons plus que vainqueurs. Comment est-ce que nous allons éviter de saboter ce plan? Comment est-ce que nous allons bénéficier de toutes ces riches bénédictions que Dieu veut nous donner? Dieu avait justement un plan pour Israël. Il a dit, je vous amène dans ce pays, vous allez vraiment bénéficier de cela, vous allez être lumière pour les nations, vous serez la tête des nations, non la queue. Je vais justement déverser des bénédictions sur vous. Et là, nous avons aussi des bénédictions, mais des bénédictions spirituelles que Dieu veut nous donner. Pour que nous soyons justement les gens remplis d'esprit de Dieu, les gens qui connaissent leur Dieu, les gens qui sont une lumière dans les ténèbres. Mais comment allons-nous faire justement pour bénéficier de ces bénédictions? Et encore plus important, comment est-ce que nous allons faire d'avoir de l'assurance au tribunal de Christ? Ça, c'est très important parce qu'il nous faut tous, comme l'apôtre Paul dit, comparaître devant le tribunal de Christ. Et j'aime ce que Michel dit souvent. Il y a juste, nous sommes dans une course. On est comme dans un stade olympique, puis tout le monde, vous et moi, nous avons simplement une seule fois, une seule tour de piste. Alors, comment est-ce que nous allons faire pendant notre vivant de comparaître devant le tribunal de Christ? Et de ne pas avoir honte, de ne pas rougir, et d'entendre le Seigneur dire à nous, à moi, à vous, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Alors, ce que je vous propose ce matin, et la solution passe par une connaissance de Dieu. J'ai parlé de la méfiance que nous avons hérité d'Adam et Ève. J'ai entendu ta voix, il a dit à Dieu, et je me suis caché. Pourquoi? Parce qu'il connaissait mal son Dieu. Et nous avons hérité justement cette même méfiance à propos de notre Père céleste. Et Dieu, dans le texte que nous avons lu, je vais vous sortir trois choses à propos de Dieu qui va nous aider à mieux connaître comment Dieu est. Et plus que nous connaissons comment est-ce qu'il est, mais plus qu'on va être inclin de lui faire confiance, les deux vont ensemble, ils ne peuvent pas séparer le Dieu. Connaître notre Dieu comme il est, c'est lui faire confiance. Et ça, c'était la problématique majeure d'Israël dans le désert. C'était leur incrédulité parce qu'ils connaissaient mal leur Dieu. Et pourtant, ici, au début du voyage, Dieu va leur donner trois choses à propos de sa personne. S'ils avaient eu les yeux là pour les voir, justement, s'ils avaient justement l'intelligence pour les saisir, ils se seraient rendus compte que Dieu était pour eux et non pas contre eux. Quand ils ont mis le sang autour des portes en Égypte, l'ange destructeur n'est pas rentré. Alors là, il y a eu la preuve que Dieu n'était pas contre eux. Mais ce peuple-là, il n'a jamais, jamais appris que Dieu était pour eux. Et la parole de Dieu nous dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors, dans le texte que nous avons lu ce matin, le Seigneur va nous démontrer, parce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 10 que ces choses qui leur sont arrivées ont été écrites pour, justement, servir d'exemple et pour notre instruction, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs d'être des chioleux comme Israël, comme on dit en bon québécois, comme eux, ils en ont eu. Alors le Seigneur veut nous révéler dans ce passage ici trois choses à propos de sa personne pour que nous puissions mieux le connaître. Et quand nous connaissons notre Dieu, alors nous allons aussi lui faire confiance. Confiance pour le chemin et confiance aussi pour les combats. Le parallèle est là. Israël partait, la destination était Canaan, et au tout début, Dieu voulait qu'il fasse confiance pour le chemin. Et rendu justement dans la terre promise, il fallait qu'il fasse confiance à Dieu pour les combats. Et nous, c'est la même chose. Nous allons vers une maturité spirituelle. Parce que Canaan n'est pas le ciel, je répète. Parce qu'au ciel, il n'y aura pas de combat. Au ciel, c'est le repos. Mais Dieu nous a sortis de ce monde. Dieu nous a sortis de l'esclavage, de ce monde, du péché, pour que nous entreprenions un voyage spirituel vers la maturité spirituelle. Et cette maturité spirituelle, c'est quoi? C'est avoir la ressemblance de Jésus-Christ. Et ayant cette ressemblance, qu'est-ce qui arrive? Nous sommes victorieux sur le péché. Ça, c'est le plan de Dieu pour nous. Comme il y avait ce plan d'Israël aussi, pour Israël. Alors, comment est-ce que Dieu va nous aider maintenant à lui faire confiance et grandir justement dans cette maturité spirituelle, ressembler au Jésus-Christ et remporter les victoires sur le péché et aussi entrer pleinement dans tout ce qu'il veut nous donner, ses bénédictions spirituelles. Être rempli, comme Paul dit dans Éphésiens, dans toute la plénitude de Dieu. De connaître Jésus-Christ, la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances. C'est des choses extraordinaires. Dieu voulait donner à Israël des bénédictions terrestres. Mais nous avons, comme Paul dit dans Éphésiens, le parallèle est frappant. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Et la problématique, c'est qu'on ne rentre pas dans ces bénédictions parce qu'on connaît mal notre Dieu. Et au lieu d'être justement victorieux sur le péché, au lieu d'être justement des chrétiens qui sont enflammés pour Dieu, au lieu d'être des chrétiens qui sont des lumières pour le monde qui périt, qu'est-ce qui arrive souvent? On tourne en rond, parce qu'on connaît mal notre Dieu. Alors la première chose que j'aimerais laisser avec vous, que Dieu révèle de sa personne, qui pour Israël aurait dû justement solidifier le foi en Dieu, et qui pour nous aussi par ricochet c'est la même chose, c'est sa providence. Le texte dit ceci: Dieu, lorsque Pharaon laissait aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir et voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert. Et voilà notre Dieu qui prend maintenant la responsabilité. Il a sorti ce peuple d'Égypte et il prend la responsabilité de les conduire justement au pays promis. Et juste pour vous donner une définition de la providence de Dieu, c'est la façon dont Dieu orchestre les événements de nos vies, parce qu'il est souverainement en contrôle. Et sa providence, c'est ce qui permet, dans sa souveraineté, qui arrive dans notre vie pour accomplir justement ses desseins bienveillants envers nous. J'aimerais vous dire juste quelques mots à propos du chemin des Philistins. Parce que là, on sort d'Égypte. Waouh, c'est beau. Hein? C'est la délivrance. Yes, sir, let's go. Et qu'est-ce qu'on voit? Ah, il y a un chemin plus court, plus direct. On s'en va en Canaan, on prend ce chemin-là, le chemin des Philistins. On nous dit que c'est à peu près 10, 250 kilomètres. Une armée pourrait prendre 10 jours pour s'y rendre. Si on pense à Israël avec des femmes, des enfants, des petits-enfants, des nourrissons, on va leur donner un peu plus de temps. Peut-être un mois max s'ils seraient rendus. Mais qu'est-ce que le texte nous dit? Dieu ne conduisit point le peuple par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche et le plus direct. Dans sa providence, Dieu regarde la situation, puis il va orchestrer les circonstances en conséquence. Et pourquoi est-ce qu'il fait cela? Il va le faire maintenant, prendre un détour par le chemin du désert. Et vous savez, quand on parle de détour, il n'y a personne qui aime ça. Hein? Vous êtes sur l'autoroute et vous avez le. C'est beau, là où vous en allez, puis hop! Détour. Oh, aïe, 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 aïe. Et là, on commence à. Hein, avoir chaud, et on pense à, OK, ça va être un gaspillage de temps, la lunch va être brûlée, je vais manquer mon rendez-vous, etc., etc., on commence ici. Mais vous savez que les deux tours sont tout à fait nécessaires, parce que si des fois on continue, on dit, bon, tu sais, je ne prends pas attention à cela, là, on peut avoir des problématiques un peu plus tard. Alors, c'est la même chose. Le détour ici, dans ce contexte ici, est extrêmement nécessaire et important pour le peuple d'Israël. Et tantôt, quand on va faire l'application, on va voir aussi que c'est extrêmement important et nécessaire dans nos vies. Alors, pourquoi est-ce que Dieu va faire un détour? À cause de sa connaissance. Dieu a regardé son peuple. Il a regardé le cœur. Puis il sait, Dieu qui sonde les cœurs et les reins, il sait que Israël n'est pas prêt à ce moment précis dans le voyage pour aller à la guerre. Parce qu'il a dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte, qui aurait été catastrophique. Alors la connaissance de Dieu, Dieu qui connaît toutes choses, rien est caché devant lui. Il connaissait le cœur de son peuple, il sait qu'ils ne sont pas prêts, alors je ne vais pas les faire passer par là. Et quel beau texte dans Psaume 103, Dieu sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Pouvez-vous imaginer ce peuple-là, tout enthousiasmé, qui sort justement, content d'être délivré de 400 ans d'esclavage. Et là, il arrive là, et qu'est-ce que c'est? C'est la guerre, parce qu'on dit que ce chemin-là, il s'était fortifié. Et soit les Philistins qui étaient là, ou les Égyptiens, qu'importe, il y avait des armées qui étaient là. Et Israël, en voyant cela, ça s'arrêtait justement, la terreur, la panique. Et la seule chose qui serait rentrée dans leur tête, on rebousse ce chemin, on retourne en Égypte. Et Dieu, dans sa connaissance de comment est-ce qu'il allait réagir d'avance, il a dit, non, vous allez faire un détour. Ça ne veut pas dire que Dieu agit à cause de nous, de ce que nous faisons. Mais ça veut dire que dans sa préscience, dans son omniscience, il va orchestrer dans sa providence des circonstances pour prendre en considération cette faiblesse ici. Quel grand Dieu nous avons. Deuxième chose aussi, le détour, c'est un choix de Dieu qui nous démontre sa sagesse. Il est sage parce qu'il sait que les conséquences de retourner en Égypte sont beaucoup plus catastrophiques que les conséquences justement de passer par le détour. Oui, le détour, le chemin du désert, ce n'est pas un chemin qui est facile. Mais quand Dieu met les deux, un à côté de l'autre, il sait que ça, c'est le meilleur chemin comparé au chemin du pays des Philistins, parce que les conséquences de ce chemin, c'est de retourner en Égypte. Et retourner en Égypte, c'est quoi? C'est l'esclavage. C'est la servitude. C'est les gémissements. C'est toutes sortes de choses que Dieu ne voulait pas pour son peuple. Et on voit ici comment c'est important, justement, d'être imbibé de la manière dont Dieu voit les choses, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Et souvent, j'écoute un prédicateur en anglais, il s'appelle Charles Stanley. Puis son fils, par exemple, Andy Stanley, qui a un site de northpoint.org. Et souvent, il dit que dans sa vie chrétienne, il demande une chose à Dieu. Souvent, ça revient, « Seigneur, aide-moi à voir les choses comme toi, tu les vois. » Et quand on arrive à ce point-là, puis on est capable de voir la vie et les situations qui nous arrivent comme Dieu les voit, on évite beaucoup de difficultés. Alors Dieu, dans sa sagesse, non, ce n'est pas le chemin du Philistin, ça c'est humainement parlant, c'est le plus proche, c'est le plus direct. On y va, Dieu dit non, vous avez besoin en ce moment de votre vie précis, vous avez besoin d'un détour. Et la troisième chose aussi que nous avons à propos de cela, c'est le choix de Dieu qui nous démontre ses compassions. Dieu ne voulait pas que ce peuple-là, qui venait justement d'être délivré de la servitude, aille justement dans un contexte qui allait les bouleverser complètement. Ça nous montre le cœur de Père de Dieu. Et comme il dit, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient de poussière. Et dans sa bonté, justement, Dieu, dans sa bonté immense, il va les faire un détour parce qu'il sait que c'est pour leur bien. Maintenant pour nous, je ne sais pas où vous êtes dans votre cheminement avec le Seigneur Jésus-Christ, dans cette progression vers la maturité spirituelle, mais le jour que vous avez été sauvé, vous avez embarqué sur un voyage aussi, à la ressemblance de Jésus-Christ. Et il est possible que selon vous, vous êtes en train maintenant à faire des détours. Mais vous ne pouvez pas vous dire que les détours sont tout à fait nécessaires. Parce que Dieu savait qu'Israël n'avait pas la maturité spirituelle pour aller affronter l'ennemi. Et souvent, quand un Dieu nous fait faire des détours parce qu'il sait qu'on n'est pas à cette maturité spirituelle encore pour ce qu'on voudrait faire, alors il nous fait des fois patienter. Pour nous, des fois, ça peut paraître long, difficile, mais Dieu il est sage, comme je dis, Dieu connaît nos cœurs. Il sait que s'il nous laisse aller dans le chemin, puis s'entête aller dans notre chemin, puis souvent on le fait aussi, puis on récolte justement des conséquences. Dieu simplement voudrait nous éviter de cela. 1 Corinthiens 10, 13 dit ceci, qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Et avec l'épreuve, il va préparer aussi le moyen que vous puissiez s'en sortir. Alors, si vous êtes à un point où est-ce que vous êtes dans le désert, vous êtes à un point où est-ce que vous gémissez et vous dites, « Non, Seigneur, ce n'est pas ça que je voulais pour ma vie. » Mais soyez certains que Dieu ne vous donnera pas plus que vous pouvez supporter. Et c'est nécessaire. La deuxième chose aussi, que la maturité spirituelle, ça prend du temps. Et souvent, notre tête est tellement dure là, que ça nous prend du temps à l'apprendre. Et je peux vous dire aussi, moi, il fallait que j'apprenne cette leçon ici. La maturité spirituelle, ça prend du temps. Alors Dieu, dans sa providence, dans sa sagesse, il met des détours dans notre vie pour qu'on puisse progresser dans la maturité spirituelle, pour que quand il veut maintenant qu'on accomplisse son volonté, on est prêt. Mais ça prend du temps. Alors, ne soyons pas de ceux qui régiment contre les détours de Dieu. Et troisièmement, si vous êtes sur un détour et vous pensez que le chemin du désert, pour vous, c'est difficile, j'aimerais juste vous encourager à regarder à Jésus-Christ. Lui aussi a passé par un chemin qui est beaucoup plus difficile que le nôtre. Et qu'importe le chemin que Dieu puisse nous demander à suivre dans sa sagesse, dans sa connaissance, c'est rien à faire à ce qu'il avait demandé à son fils. Et quand nous focalisons sur le Seigneur Jésus-Christ et nous regardons juste à quel point lui a accepté le chemin que Dieu avait tracé pour lui et la gloire que Dieu a eue justement de ce chemin, ça nous aide justement à accepter et de se soumettre justement au chemin que Dieu a tracé pour nous. Alors Dieu ne nous donne pas toujours toutes les raisons, justement, pourquoi il ne nous amène pas par le chemin le plus direct. Mais soyons certains d'une chose, que le chemin qu'il nous a tracé pour vous et tracé pour moi, c'est pour sa gloire et ultimement, c'est pour notre bénédiction. Et quand nous acceptons cela aussi, ce sera pour la bénédiction aussi de ceux qui nous entourent. Alors, la première chose ici que Israël aurait dû saisir dans ce voyage ici, pour faire confiance à Dieu pour le voyage et aussi pour les combats, c'est la providence. Dieu était en contrôle et Dieu était en train de diriger justement le voyage. La deuxième chose aussi, on voyait ça avec au verset 19. Pourquoi est-ce qu'Israël aurait dû faire confiance à Dieu pour justement ce voyage? Et comme j'ai dit, ils ont échoué lamentablement. Caleb et Josué, ceux qui ont fait cela. Parce que Dieu aussi leur avait donné, il n'y avait pas les yeux de le voir, mais Dieu les avait donné justement une deuxième preuve, une deuxième manière justement de saisir sa personne. Pour qu'ils puissent mieux le connaître et mieux le connaître, c'est de lui faire confiance. Et quand on fait confiance en Dieu, on progresse dans ses voies qu'il a tracées pour nous. Alors, c'était la promesse de Dieu. Et ça, c'est associé avec le cercueil. Et voilà, nous avons quelque chose, un événement qui est un peu bizarre. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. » Et là, nous avons maintenant Dieu qui donne à son peuple un deuxième indice de sa personne pour qu'il puisse mieux le connaître. Les os de Joseph nous parlent ici, qui est dans un cercueil, nous parlent justement de croix, nous parlent de la foi d'un patriarche. Parce que si vous vous rappelez dans Genèse chapitre 50, Joseph mourant a dit à ses frères, « Je vais mourir ». Mais Dieu vous visitera et vous fera monter, remonter hors de ce pays. Et voilà maintenant, 400 ans plus tard, la volonté de Dieu était en train de s'accomplir. Et Israël, avec ce cercueil qui traînait avec eux autres, chaque jour, ils devraient regarder et dire, Dieu accomplit ses promesses. Joseph, il nous avait dit cela, on a l'exemple d'un homme de foi avec nous. Alors faisons confiance à Dieu pour notre vie, notre voyage. C'était là, c'était tangible, vous pouvez le voir. Joseph avait dit, Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays, dans un bon pays, un vaste pays, qui a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Il avait ça avec eux autres. C'était justement que Dieu tient ses promesses. Et aussi, c'était un témoignage envers la fidélité de Dieu. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les opprimera pendant 400 ans. Ils en sortiront ensuite avec de grandes richesses. Et à la quatrième génération, ils reviendront ici. C'était en train de s'accomplir. On veut faire confiance en Dieu. Il faut le connaître. Et Dieu est ici, il est en train de révéler en son peuple que je suis un Dieu. Vous voulez me connaître? Alors connaissez-moi comme un Dieu qui est fidèle à sa parole. Et quand on est capable de saisir cela, que Dieu est fidèle à ses promesses, on est capable maintenant, on est incité à mieux le faire confiance. Comme j'ai dit, la problématique d'Israël, c'était de ne pas faire confiance à leur Dieu. Et si nous allons justement progresser dans la sanctification, récolter toutes les bénédictions que Dieu veut nous donner, comme nous avons vu dans Éphésiens, être les lumières dans ce monde, être les chrétiens, les hommes et les femmes de Dieu, que Dieu nous veut que nous fassions, il faut qu'on fasse confiance à Dieu pour le chemin et pour les combats. Quelqu'un dit ceci, « Faire une promesse engendre l'espoir. Honorer une promesse inspire la confiance. » Et Dieu avait honoré ses promesses. Et troisième chose, alors, dans ce contexte ici, Dieu se révèle à celui qui est présent avec son peuple. Il leur avait demandé de faire un voyage. Mais il dit, je ne vous laisse pas débrouiller dans le noisard. Je vous accompagne. Je vous accompagne. Je serai avec vous. C'est mon plan. J'ai un plan pour vous. J'ai tracé un chemin pour vous. Mais je vais être là. Je ne vous laisse pas seul. Je vais être avec vous. Parce que moi, je suis justement garanti et je veux justement vous bénir et justement que vous vous accomplissiez, que vous réussissiez dans ce plan-là. Alors, quoi de mieux que d'avoir Dieu avec nous? Celui qui est mis en action, qui a pensé à cela, d'être avec nous. Alors, le texte nous dit que l'Éternel est devant eux le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Et là, il y avait justement quelque chose de tangible, de visible. Ils voyaient Dieu jour et nuit, de dire, l'Éternel n'est pas seul, l'Éternel est avec nous. Et je vais vous juste laisser trois choses rapidement avec vous en ce qui concerne la présence de Dieu avec eux dans la colonne de nuée et la colonne de feu. Il y avait la certitude de sa présence. L'Éternel est devant eux dans une colonne de nuée et dans une colonne de feu. Et pour nous, pour faire le parallèle, nous avons dans ce voyage que nous sommes en train de faire, comme Israël, vers la maturité spirituelle, la ressemblance de Jésus-Christ. Jésus a dit, « Je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité, il demeure avec vous, il sera en vous, et je ne vous laisserai pas orphelin. » Frères, chers et frères et sœurs, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur nous a appelés, nous a sortis de l'esclavage du péché, et le Seigneur nous accompagne, il nous a donné de son Saint-Esprit. Quel bon Dieu nous avons, la bonté de Dieu, pour que nous puissions justement réussir. Dieu n'a pas voulu qu'Israël meure dans le désert. C'était d'aller en Canaan et remporter les victoires et d'être tout ce qu'il voulait qu'Israël soit pour les nations. Et Dieu ne veut pas non plus que nous échouions justement dans notre voyage et dans cette ressemblance à Jésus-Christ. Il nous a donné l'Esprit pour qu'on puisse accomplir cela. D'avoir cette plénitude de l'Esprit pour qu'on puisse être une lumière pour les nations. La deuxième chose aussi, c'était la consolation de sa présence. L'Éternel est devant eux pour les guider dans le chemin et pour les éclairer. Il n'y avait pas besoin de se casser la tête, mais où est-ce qu'on s'en va et comment est-ce qu'on va faire ça? Le Seigneur était là pour le montrer. Et nous avons la même chose aussi quand le Seigneur a dit, « Le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. » Quelle grâce de la part de Dieu, hein? Pour nous démontrer quand on ne sait pas où aller, quand on ne sait pas où tourner, nous avons l'Esprit Saint qui est là pour nous éclairer avec la parole de Dieu, pour nous montrer le chemin. Et la troisième chose ici, la constance de sa présence. La colonne ne se retirait point devant le peuple, ni la colonne de feu. Et ça est une grâce extraordinaire. Même si Israël a fait un veau d'or, et même si Israël s'est prosterné devant le veau d'or et dit, « Voici Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. » Et le feu aurait dû descendre du ciel, puis il est tout carbonisé, l'eau. Dieu, dans sa grâce, a dit, « Non, je reste avec mon peuple. » Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Il ne peut pas se renier lui-même. Ça, c'est le texte qui dit. Et ça, même quand j'attriste le Saint-Esprit, je ne peux pas l'attrister. Mais le Saint-Esprit demeure éternellement avec nous. Quelle consolation. Alors, je termine avec ceci, juste avec une application. Voici notre Dieu, Jéhovah Ra, l'Éternel, notre berger, qui cherche à nous conduire dans ce chemin qu'il a tracé pour nous. Comme il a cherché pour Israël, il leur a donné une preuve justement de sa providence, comme il prenait soin de son peuple. Il a donné aussi une preuve de ses promesses, qu'il était fidèle à ses promesses. Il a donné aussi une preuve de sa présence, il était là. Et malgré cela, Israël a échoué lamentablement. Et ma prière pour vous et pour moi, c'est qu'on n'imite pas Israël. Dieu s'est révélé à nous, il nous a montré justement le type de Dieu qu'il est, et nous avons tous pour qu'on puisse dire, « Oui, Seigneur, tu seras mon guide jusqu'à la mort. » Je termine avec ceci. Juste deux petites choses. Si vous êtes ici ce matin et vous ne connaissez pas le Seigneur comme votre sauveur personnel, faites-lui confiance. Remettez votre vie entre ses mains. Il vous conduira au bon port comme il a cherché à conduire Israël. Et si nous sommes des chrétiens de longue date, que ce soit de 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans, est-ce qu'il y avait un moment dans votre vie que vous avez remis votre vie entre les mains du Seigneur? Et, Romains 12, 1 nous dit ceci: « Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » Ça, c'est ce qu'il faut faire, de lui faire confiance. S'il y avait un slogan autrefois qui disait « Go Greyhound », un livre de driving to us, ça veut dire que tu vas prendre, marquer dans un autobus Greyhound, puis si tu ne casses pas la tête, il y a un chauffeur qui t'amène à la bonne destination. C'est la même chose. Notre Dieu est digne de confiance à cause justement de sa providence, à cause justement de ses promesses et à cause de ses présences. Et si vous n'avez jamais fait cela, je vous invite à juste dire: Seigneur, prends ma vie, que je puisse devenir l'homme ou la femme de Dieu que tu veux que je sois, pour ta gloire et aussi pour ma bénédiction, pour que je puisse être aussi une lumière dans ce monde de ténèbres et d'être une bénédiction pour ceux qui m'entourent. La semaine prochaine, Dieu voulant, si nous sommes ici, on va regarder un deuxième message dans cette mini-série. Église, voici ton Dieu, Jéhovah Rapha. On va prier. Seigneur notre Dieu, on te remercie pour ta bonté et ta fidélité. Seigneur, que tu nous préserves de ressembler à Israël, une race qui avait le coup. Oh Seigneur, le coup dur, le coup raide, incrédule. Seigneur, tu nous as démontré ta personne, comment tu es. Et que tu veux, Seigneur, que nous héritions toutes ces riches bénédictions dont tu nous as réservées dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors, donne à ton peuple de marcher pleinement dans tes voies, pour ta plus grande gloire et pour notre bénédiction. Et demandant ces choses au nom de Jésus. Amen.